Parmi les missions du Conservatoire d'espaces naturels, il y a celle de valoriser les sites qu'il gère. Pour cela, les gardes animateurs proposent régulièrement des sorties nature à destination du grand public, mais aussi des scolaires. Le 21 septembre dernier, plusieurs classes de 6e du collège de Brezolles sont venues découvrir la tourbière des Froux près de Manou. Les naturalistes en herbe ont été accueillis par Mélodie de Vligé, garde animatrice avec laquelle nous avons fait connaissance, souvenez-vous, le mois dernier. Je les ai rejoints à la tourbière le temps d'un reportage, les pieds dans l'eau, à vos bottes et à vos filets.
Alors, on vous donne un peu de matériel.
Ah, c'est pour étudier les animaux.
Hop. Alors, les vertes, vous les mettez pas dans l'eau, c'est pour les insectes volants. Et celle-ci, c'est pour l'eau.
D'accord.
Moi, je vais en prendre une petite.
Toi, t'as des bottes?
Vous prenez la petite.
Ne vous inquiétez pas. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, ce sera même peut-être plus pratique avec les petites. Ouais. Vous rejoignez les autres.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle du coup Mélodie. Je suis garde animatrice au Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, donc, vous allez découvrir un site que nous protégeons, qui s'appelle la tourbière des Froux. Donc là, ça va être un milieu qu'on va découvrir. Là, ça va être le milieu de la tourbière. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça peut être une tourbière? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout? Bon, bah, on va découvrir ça du coup sur le site. Je vais vous inviter à avancer. Je passe devant. Alors du coup, je vais vous inviter à continuer un peu sur le ponton. Ah, perdez pas les petites boîtes. Je vais commencer par voir un petit peu ce que vous trouvez dans le paysage. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme élément dans ce qui nous entoure?
Des arbres.
Des arbres, effectivement.
Des papillons.
Des papillons. J'en ai pas vu beaucoup, mais ah si, il y en a un jaune là. Oui, des papillons. Oui,
des herbes hautes.
Des herbes hautes, effectivement.
De l'eau.
Ah, de l'eau. Effectivement. Un élément très important dans une tourbière, ça va être l'eau. Une tourbière, c'est forcément un milieu humide. Donc, il y a de l'eau.
Voilà.
Donc là, vous voyez que bon, c'est un peu trempé. La tourbière, en fait, c'est un milieu qui va résulter en fait du contexte géologique, donc des éléments inertes qu'il y a sur place. Donc là, ça va être l'eau et le sol, le sous-sol en fait. Donc on va trouver ici un élément particulier, c'est de l'argile et des silex qu'on trouve en sous-sol. Donc le silex, c'est ce caillou là. À l'intérieur, il a une couleur qui peut varier du orange au bleu, noir, gris. Et ces roches ainsi que l'argile vont donner de l'acidité à l'eau. Acide, ça vous parle?
Oui.
Ouais, donc comme le citron. Là, elle est un peu moins acide que le citron quand même. Donc là, on a un ruisseau en fait, un écoulement. Et tout ça ici, là, on est sur l'eau. Voilà. On a des plantes qui se développent dans ce milieu. Alors, en particulier, on a ceci. Qu'est-ce que c'est ça?
La mousse.
Ouais, c'est de la mousse. Juste là, on a en fait un coussin de mousse qui est vraiment typique des tourbières et des eaux acides. C'est ce qu'on appelle la seigne et c'est une mousse qui va accumuler beaucoup d'eau. En fait, elle a un effet éponge. Du coup, cette mousse qui se développe au début, elle va faire des coussins comme ça. Il y a une première génération de mousse qui va pousser et la deuxième génération va pousser par-dessus. Sauf que la mousse, une fois qu'elle est morte, la matière va s'accumuler au sol et normalement, elle est dégradée. Sauf que sur la tourbière, c'est pas le cas. Il n'y a pas de micro-organismes dans le sol pour dégrader la matière organique laissée par les plantes. Du coup, on a des accumulations. Et c'est comme ça que des coussins comme celui-ci vont se former. Sur ces coussins, qui vont être du coup hors de l'eau, on a d'autres plantes qui vont se développer. Donc là, par exemple, on a de l'herbe, on a de la calune, et on peut également avoir... C'est quoi ça ? Un tronc, des feuilles.
Un arbre, non ?
Un arbre, exactement. Les végétaux, de quoi ont besoin les végétaux pour grandir ?
D'eau.
Effectivement, elles ont besoin d'eau. Est-ce qu'on a de l'eau ?
Oui.
Ouais, bon, on a de l'eau. Pour ça, tout va bien. Elles ont besoin de quoi d'autre?
De lumière.
De lumière. On a de la lumière?
Oui.
Ouais, on a de la lumière. Là. Ensuite?
Du CO2.
Du CO2. En fait, dans l'air, on a plusieurs gaz différents. Et celui dont la plante va avoir besoin, c'est le CO2. Nous, on utilise lequel? Quand tu respires, tu prends quoi, toi, dans l'air ambiant?
L'oxygène.
Ouais, l'oxygène. Donc en fait, la plante, elle va prendre le CO2 et nous, on va prendre l'oxygène. Et on va relâcher, par contre, du CO2 que la plante va utiliser. De quoi elle peut avoir besoin d'autre? On a dit eau, soleil, CO2.
Du sable.
Alors effectivement, on pense toujours à la terre. Est-ce que c'est la terre en elle-même dont elles ont besoin? En fait, les plantes, elles vont pas prendre la terre, elles vont prendre ce que contient la terre. Alors, nous, on va avoir besoin, par exemple, de... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du calcium. C'est un élément qu'on va appeler sel minéral. Enfin, ou les sels minéraux, parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Les plantes, elles vont avoir également besoin de ces éléments-là. Et elles vont les trouver dans le sol. Elles vont absorber, grâce à leurs racines, de l'eau, des sels minéraux. Grâce à leurs feuilles, elles vont absorber du CO2 dans l'air ambiant. Et qu'est-ce qui donne la couleur verte aux feuilles, vous savez? C'est la chlorophylle. C'est un élément en fait qui compose chaque cellule de la plante, en tout cas sur les feuilles, qui va permettre à la feuille, à la plante, de faire la transformation des éléments qu'elle va puiser dans le sol et dans l'air pour faire de la matière organique. Alors matière organique, c'est tout ce qui va composer le vivant. La matière organique va composer sa tige, ses racines, les feuilles, les petits bourgeons, voilà. Tout ça c'est vivant, c'est de la matière organique. Donc elle va faire de la matière organique et elle va relâcher de l'oxygène. On va faire une petite capture pour voir un petit peu ce qu'on trouve dans la tourbière. Alors les filets verts, c'est que pour l'air, hein. Vous ne mettez pas ça dans l'eau. Pour le mouvement, c'est horizontal, donc vous essayez de garder la poche du filet à l'horizontale.
Comment, comme ça?
Ouais, voilà. Et pour les filets noirs, c'est pour l'eau. Donc normalement, si vous regardez là, vous aurez des petites flaques. Essayez de trouver des petits trucs dans l'eau.
Voilà.
Si vous trouvez une petite bête dans l'eau, vous essayez de mettre un petit fond d'eau dans votre boîte.
Comme moi.
Voilà. Et de mettre votre petite bête dedans. D'accord? Ceux qui ont des bottes, vous vous aventurez pas trop loin, mais vous pouvez essayer de mettre les pieds dans l'eau à côté du ponton. Ceux qui veulent pas attraper quoi que ce soit, si vous avez peur des insectes, c'est pas très grave.
Qu'est-ce que vous aviez attrapé?
Moi j'ai attrapé un truc, je sais pas ce que c'est. On dirait des insectes.
Est-ce que vous avez attrapé quelque chose du coup?
Bah moi j'ai ça, mais c'est pas moi qui l'ai attrapé.
Alors qu'est-ce que tu as? Première trouvaille, un coléoptère. Alors est-ce que ça vous parle, coléoptère? C'est un insecte avec des ailes. Vous connaissez sûrement le scarabée?
Oui, ah oui, c'est
quelque chose. Voilà. En fait les coléoptères, ils ont une paire d'ailes très rigide qui fait comme une carapace sur le dos. C'est ça les coléoptères. Donc il y en a plein d'espèces différentes. Là, on en a un petit qui est aquatique.
Il vit dans l'eau.
Ensuite, toi, t'en avais deux.
Oui.
Alors, je vais la sortir de la boîte parce que sinon, on va pas voir grand-chose. Hop. Celui-là, il vit dans l'eau. Il a combien de pattes?
6.
Alors, 6 pattes, c'est quoi? Un insecte. Il a besoin absolument d'eau pour vivre, en tout cas sous cette forme. En fait, c'est un animal qui va se transformer en quelque chose dont vous avez probablement plus l'habitude. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure là, qui volait juste au-dessus.
Ah, les libellules.
En fait, c'est le petit de la libellule qui vit dans l'eau. Les libellules, en fait, là, en ce moment, elles sont en train de pondre. Elles vont pondre plein d'œufs dans les flaques d'eau, là. Et elles vont passer le reste de l'année à grandir dans l'eau. L'adulte ne va rester que pendant la saison chaude. En fait, l'adulte, il va vivre que la saison, en fait, que l'été. Lorsque l'hiver va arriver, les adultes vont mourir. Et ce qu'il restera de l'espèce, ce seront les petits qui se développent dans l'eau, pour se protéger notamment du froid. Dans l'eau, en fait, ils peuvent du coup creuser un peu et se mettre à l'abri du gel qui va geler du coup que la surface. Les insectes, en fait, ils ont ce qu'on appelle un squelette externe, un exosquelette, qui ne va pas grandir en même temps qu'eux. Et ils vont pouvoir muer. Quand ils vont se transformer en libellules, ils vont abandonner ceci au bord de l'eau. Ils sont pas morts, c'est simplement leur squelette externe, leur combinaison de plongée qu'ils ont abandonnée dans les hautes herbes pour pouvoir s'envoler. Donc on peut voir que ça y ressemble pas du tout. Donc il y a d'autres animaux hein, qui vont pouvoir faire la même évolution. Par exemple, le papillon. C'est un peu le même principe, simplement la chenille ne va sortir qu'au printemps. Et le papillon, lui, il va mourir au début de l'hiver. Il restera les œufs sur les feuilles. Et le papillon, il va passer l'hiver en fait sous forme d'œuf. La libellule sous forme de larve. Et il y a d'autres adaptations. Par exemple. Hop. Oh, regarde. Une autre habitante de la tourbière.
C'est qui l'a
d'abord? Elle est vivante.
Oui, elle est vivante. Voilà, donc la grenouille, elle a le sang froid. Vous savez que vous avez une température d'environ 37 degrés. Elle a le sang froid. Et du coup, elle a besoin de l'énergie, en fait du soleil, elle a besoin de chaleur pour que son système fonctionne correctement. Et la grenouille aussi se métamorphose puisque au printemps, elle va pondre des œufs dans l'eau. Et le petit de la grenouille, c'est quoi? C'est un têtard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de chaîne alimentaire?
Oui.
Alors, par exemple, là, il y a de l'eau. On peut se dire qu'il y a peut-être aussi des larves de moustiques. Parce que le moustique également va pondre des œufs et la larve va se développer dans l'eau. La larve de moustique va se faire manger par la larve de libellule, qui est une carnassière. La larve de libellule, elle va se faire manger par Madame la grenouille. Et la grenouille, elle peut se faire manger par quoi? Par les oiseaux, les rapaces par exemple. Mais elle peut également se faire manger par le renard. Alors, maintenant imaginons que pour une raison ou une autre, je mets de l'insecticide parce que j'aime pas les moustiques. Donc les moustiques disparaissent. Qui c'est qui mangeait le moustique tout à l'heure?
Les larves de libellule.
La larve de libellule, elle mangeait le moustique. Mais il n'y a plus de moustique. Qu'est-ce qui se passe?
Elle meurt, mais qui a plus de
manger. Exactement, elle meurt. Donc il n'y a plus de larves de libellule non plus. Quel est le problème pour la grenouille? Elle mange les larves de libellule, du coup elle meurt aussi. En France, toutes les espèces d'amphibiens sont protégées. D'ailleurs là j'en ai capturé une, j'ai une autorisation de capture. Vous ne reproduisez pas ça chez vous. Normalement il est strictement interdit de capturer tous les amphibiens. Amphibiens, grenouilles, tritons, crapauds. Donc la grenouille disparaît également. C'est problématique quand même. On a perdu 3 ou 4 espèces là en l'espace de 5 minutes parce que j'aime pas le moustique et que j'ai mis de l'insecticide. Alors le problème c'est que c'est pas aussi simple. Hein. En vrai, par exemple, la grenouille, elle peut manger d'autres choses. Elle va manger également des petites limaces. Elle peut manger le moustique adulte, bien sûr, mais elle peut manger aussi des coléoptères. Donc elle peut reporter son attention sur une autre espèce. Mettons l'escargot. Comme il y a beaucoup de grenouilles, elle va manger beaucoup d'escargots puisqu'elle n'a plus rien d'autre à manger. À force, les escargots vont diminuer, puisque la grenouille les aura tous mangés. Donc, j'aurai plus d'escargots non plus. Et là, on reprend. La grenouille, elle n'a plus ni larve de libellule, ni escargot, et elle meurt. Ou, en tout cas, il y en a moins. Le problème, c'est que cette grenouille, elle était aussi mangée par d'autres espèces, comme la buse, le renard, et eux aussi vont reporter leur attention sur autre chose, donc sur une autre chaîne alimentaire. Donc là, c'est ce qu'on va appeler le réseau trophique. Les chaînes alimentaires sont connectées les unes aux autres. Et quand on enlève une espèce, souvent, ça en impacte d'autres.
Laissant les collégiens en compagnie de Mélodie pour la suite de ce cours de biologie grandeur nature, je suis repartie en me promettant de revenir rapidement sur ce site du conservatoire dont l'œil de paillard que vous avez pu entendre plusieurs fois dans Toucher Terre est le conservateur bénévole. J'y suis effectivement retournée et je ne saurais trop vous conseiller de faire une halte dans cette oasis si précieuse pour la biodiversité.